La fin de la croissance? Venons-en maintenant à la question de l'avenir. La croissance spectaculaire de la production par habitant, dont nous venons de rappeler la réalité, est-elle appelée à se ralentir inexorablement au XXIe siècle? S'oriente-t-on vers la fin de la croissance pour des raisons technologiques ou bien écologiques, ou bien les deux à la fois? Avant de tenter de répondre à cette question, il est essentiel de commencer par rappeler que la croissance du passé, si spectaculaire soit-elle, s'est presque toujours faite à des rythmes annuels relativement lents, généralement pas plus de 1%, 1,5% par an. Les seuls exemples historiques de croissance sensiblement plus rapide, par exemple 3% ou 4% par an, ou parfois davantage, concernent des pays en situation de rattrapage accéléré par rapport à d'autres pays, processus qui, par définition, s'achève lorsque le rattrapage est achevé et ne peut donc être que transitoire et limité dans le temps. Et un tel processus de rattrapage, par construction, ne peut s'appliquer à l'ensemble de la planète. Au niveau de la planète tout entière, le taux de croissance de la production par habitant a été en moyenne de 0,8% par an entre 1700 et 2012, dont 0,1% entre 1700 et 1820, 0,9% entre 1820 et 1913 et 1,6% entre 1913 et 2012. Comme nous l'avons vu précédemment, on retrouve ce même taux de croissance moyen de 0,8% par an entre 1700 et 2012 pour la population mondiale. Nous avons reporté dans le tableau 2.5 les taux de croissance économique séparément pour chaque siècle et chaque continent. En Europe, la croissance de la production par habitant a été de 1,0% entre 1820 et 1913, puis de 1,9% entre 1913 et 2012. En Amérique, elle atteint 1,5% entre 1820 et 1913 et de nouveau 1,5% entre 1913 et 2012. Qu'importe le détail de ces chiffres, le point important est qu'il n'existe aucun exemple dans l'histoire d'un pays se trouvant à la frontière technologique mondiale et dont la croissance de la production par habitant soit durablement supérieure à 1,5%. Si l'on examine les toutes dernières décennies, on observe, dans les pays les plus riches, des rythmes encore plus faibles. Entre 1990 et 2012, la croissance de la production par habitant est de 1,6% en Europe de l'Ouest, 1,4% en Amérique du Nord et 0,7% au Japon. Il est vrai que la croissance a été quasi nulle au cours des années 2007-2012 du fait de la récession de 2008-2009. Il est important de commencer par rappeler cette réalité, car nous continuons dans une large mesure d'être imprégnés de l'idée selon laquelle la croissance se doit d'être d'au moins 3% ou 4% par an. Or, ceci est une illusion au regard de l'histoire comme de la logique. Ce préalable étant posé, que peut-on dire des taux de croissance de l'avenir? Pour certains économistes, comme Robert Gordon, le rythme de croissance de la production par habitant est appelé à se ralentir dans les pays les plus avancés, à commencer par les États-Unis, et pourrait être inférieur à 0,5% par an à l'horizon 2050-2100. L'analyse de Gordon repose sur la comparaison des différentes vagues d'innovation qui se sont succédées depuis la machine à vapeur et l'électricité, et sur la constatation que les vagues plus récentes, en particulier les technologies de l'information, ont un potentiel de croissance sensiblement inférieur. Elles bouleversent moins radicalement les modes de production et améliorent moins fortement la productivité d'ensemble de l'économie. De la même façon que pour la croissance démographique, il ne m'appartient pas de prédire ici ce que sera la croissance au XXIe siècle, mais bien plutôt de tirer les conséquences des différents scénarios possibles pour la dynamique de la répartition des richesses. Le rythme des innovations à venir est tout aussi difficile à prévoir que celui de la fécondité. Sur la base de l'expérience historique des derniers siècles, il me paraît assez improbable que la croissance à long terme de la production par habitant dans les pays les plus avancés puisse être supérieure à 1,5% par an. Mais je suis bien incapable de dire si elle sera de 0,5%, 1% ou 1,5%. Le scénario médian, présenté plus loin, repose sur une croissance à long terme de la production par habitant de 1,2% par an dans les pays riches, ce qui est relativement optimiste par comparaison aux prédictions de Gordon, qui me semblent un peu trop sombres. Et en particulier, ne pourra se produire que si de nouvelles sources d'énergie permettent de remplacer les hydrocarbures en voie d'épuisement. Mais il ne s'agit que d'un scénario parmi d'autres. Avec 1% de croissance annuelle, une société se renouvelle profondément. Le point qui me semble le plus important, et plus significatif que le détail de la prédiction de croissance, comme nous l'avons vu plus haut, résumer la croissance à long terme d'une société par un chiffre unique est en grande partie une illusion statistique, et sur lequel il nous faut maintenant insister, est qu'un rythme de croissance de la production par habitant de l'ordre de 1% par an est en réalité extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que ce que l'on imagine souvent. La bonne façon de voir le problème est là encore de se placer au niveau générationnel. Sur 30 ans, une croissance de 1% par an correspond à une croissance cumulée de plus de 35%. Une croissance de 1,5% par an correspond à une croissance cumulée de plus de 50%. En pratique, cela implique des transformations considérables des modes de vie et des emplois. Concrètement, la croissance de la production par habitant a été d'à peine 1%, 1,5% par an au cours des 30 dernières années en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Or, nos vies ont été très largement transformées. Au début des années 1980, il n'existait ni Internet, ni téléphone portable. Les transports aériens étaient inaccessibles au plus grand nombre, la plupart des technologies médicales de pointe disponibles aujourd'hui n'existaient pas, et les études longues ne concernaient qu'une minorité de la population. Dans le domaine des communications, des transports, de la santé et de l'éducation, les changements ont été profonds. Ces transformations ont également fortement affecté la structure des emplois. Lorsque la production par habitant progresse d'environ 35%, 50% en l'espace de 30 ans, cela signifie qu'une très large fraction de la production réalisée aujourd'hui, entre un quart et un tiers, n'existait pas il y a 30 ans. Et donc qu'entre un quart et un tiers des métiers et des tâches réalisées aujourd'hui n'existaient pas il y a 30 ans. Il s'agit d'une différence considérable avec les sociétés du passé, où la croissance était quasi nulle, ou bien d'à peine 0,1% par an, comme au XVIIIe siècle. Une société où la croissance est de 0,1% ou 0,2% par an se reproduit quasiment à l'identique d'une génération sur l'autre. La structure des métiers est la même, la structure de la propriété également. Une société où la croissance est de 1% par an, comme cela est le cas dans les pays les plus avancés depuis le début du XIXe siècle, est une société qui se renouvelle profondément et en permanence. Nous verrons que cela entraîne des conséquences importantes pour la structure des inégalités sociales et la dynamique de la répartition des richesses. La croissance peut créer de nouvelles formes d'inégalités. Par exemple, des fortunes peuvent se bâtir très vite dans les nouveaux secteurs d'activité. Et dans le même temps, elle rend les inégalités patrimoniales venues du passé moins prégnantes et l'héritage moins déterminant. Certes, les transformations entraînées par une croissance de 1% par an sont beaucoup moins considérables que celles impliquées par une croissance de 3% ou 4% par an, d'où un fort risque de désillusion, à la mesure de l'espoir placé en un ordre social plus juste, particulièrement grand depuis le siècle des Lumières. Sans doute la croissance économique n'est-elle tout simplement pas à même de satisfaire cet espoir démocratique et méritocratique qui doit s'appuyer sur des institutions spécifiques et pas seulement sur les forces du progrès technique et du marché. La postérité des Trente Glorieuses, destin croisé transatlantique. L'Europe continentale, et en particulier la France, vit dans une large mesure dans la nostalgie des Trente Glorieuses, c'est-à-dire de cette période de 30 ans, de la fin des années 1940 à la fin des années 1970, où la croissance était exceptionnellement forte. On ne comprend toujours pas quel mauvais génie nous a imposé une croissance si faible depuis la fin des années 70 et le début des années 80. Aujourd'hui encore, au début des années 2010, on s'imagine souvent que la mauvaise parenthèse des 30 piteuses, qui en vérité seront bientôt 35 ou 40 années, va bientôt se refermer, que ce mauvais rêve va se terminer et que tout va recommencer comme avant. En fait, si l'on remet les choses en perspective historique, il apparaît clairement que c'est la période des 30 glorieuses qui était exceptionnelle. Tout simplement parce que l'Europe avait accumulé au cours des années 1914-1945 un énorme retard de croissance sur les États-Unis, qui fut comblé à vive allure pendant les 30 glorieuses. Une fois ce rattrapage terminé, l'Europe et les États-Unis se sont retrouvés ensemble à la frontière mondiale et se sont mis à croître au même rythme, qui est structurellement un rythme lent à la frontière mondiale. L'évolution comparée des taux de croissance européens et américains, représentée sur le graphique 2.3, démontre tout cela de façon évidente. En Amérique du Nord, il n'existe pas de nostalgie des 30 glorieuses tout simplement parce que les 30 glorieuses n'ont jamais existé. La production par habitant croît approximativement au même rythme tout au long de la période 1820-2012, autour de 1,5%, 2% par an. Certes, le rythme s'abaisse légèrement pendant les années 1913-1950 à guère plus de 1,5%, puis passe un peu au-dessus de 2% en 1950-1970 et un peu au-dessous de 1,5% au cours de la période 1990-2012. En Europe occidentale, beaucoup plus durement touchée par les deux guerres mondiales, les variations sont incomparablement plus fortes. La production par habitant stagne de 1913 à 1950 avec une croissance d'à peine plus de 0,5% par an, puis bondit de 1950 à 1970 avec plus de 4% de croissance annuelle, avant de chuter brutalement et de se retrouver très exactement au niveau américain, légèrement au-dessus, au cours des années 1970-1990, un peu plus de 2%, et 1990-2012, à peine 1,5%. L'Europe occidentale a connu un âge d'or de la croissance entre 1950 et 1970, puis une division par deux, voire par trois, au cours des décennies suivantes. Encore faut-il préciser que le graphique 2.3 utilisé pour étudier le taux de croissance de la production par habitant depuis la révolution industrielle sous-estime cette rupture, car nous avons inclus, comme il se doit, le Royaume-Uni dans l'Europe occidentale, alors que l'expérience britannique en matière de croissance au XXe siècle est en réalité beaucoup plus proche de la quasi-stabilité nord-américaine. Si l'on se concentrait sur l'Europe continentale, alors on trouverait une croissance moyenne de la production par habitant supérieure à 5% par an entre 1950 et 1970, totalement en dehors de toutes les expériences connues dans les pays riches au cours des derniers siècles. Ces expériences collectives fort différentes de la croissance au XXe siècle expliquent dans une large mesure pourquoi les opinions des divers pays ont aujourd'hui des attitudes très différentes face à la mondialisation commerciale et financière, voire face au capitalisme en général. En Europe continentale, et particulièrement en France, on continue fort naturellement de voir les premières décennies de l'après-guerre marquées par un très fort interventionnisme étatique, comme une période bénie de la croissance, et on tient souvent le mouvement de libéralisation économique amorcé autour de 1980 pour responsable de son abaissement. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, la lecture de l'histoire de l'après-guerre s'est faite tout à fait différemment. Des années 1950 aux années 1970, les pays anglo-saxons ont été très rapidement rattrapés par les pays qui avaient perdu la guerre. À la fin des années 1970, les couvertures de magazines se multiplient aux États-Unis pour dénoncer le déclin américain et les succès des industries allemandes et japonaises. Au Royaume-Uni, le PIB par habitant tombe au-dessous des niveaux de l'Allemagne, de la France et du Japon, voire de l'Italie. Il n'est pas interdit de penser que ce sentiment de rattrapage, voire de dépassement dans le cas britannique, a joué un rôle majeur dans l'émergence de la révolution conservatrice. Thatcher au Royaume-Uni, puis Reagan aux États-Unis promettent de remettre en cause ce « welfare state » qui a ramolli les entrepreneurs anglo-saxons et d'en revenir à un capitalisme pur du XIXe siècle qui permettrait au Royaume-Uni et aux États-Unis de reprendre le dessus. Aujourd'hui encore, dans ces deux pays, on considère souvent que les révolutions conservatrices ont été un franc succès, puisque les deux pays ont cessé de croître moins vite que l'Europe continentale et le Japon. En vérité, le mouvement de libéralisation entamé autour de 1980, de même d'ailleurs que le mouvement d'étatisation mis en œuvre en 1945, ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cet excès d'indignité. Il est probable que la France, l'Allemagne et le Japon auraient rattrapé leur retard de croissance à la suite de l'effondrement des années 1914-1945, quelles que soient les politiques suivies, ou presque. Tout juste peut-on dire que l'étatisme n'a pas nui. De même, une fois que la frontière mondiale était rattrapée, il n'est guère étonnant que ces pays aient cessé de croître plus vite que les pays anglo-saxons et que tous les taux de croissance se soient alignés, comme le montre le graphique 2.3. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En première approximation, les politiques de libéralisation ne semblent guère avoir affecté cette réalité toute simple, ni à la hausse, ni à la baisse. La double courbe en cloche de la croissance mondiale. Récapitulons. Au cours des trois derniers siècles, la croissance mondiale aura traversé une courbe en cloche de très grande ampleur. Qu'il s'agisse de la croissance de la population ou de celle de la production par habitant, le rythme de croissance s'est progressivement accéléré au cours des 18e et 19e siècles et surtout du 20e siècle, et s'apprête, selon toute vraisemblance, à retourner vers des niveaux beaucoup plus faibles au cours du XXIe siècle. Les deux courbes en cloche présentent toutefois des différences assez nettes. Pour ce qui concerne la croissance de la population, la hausse a commencé beaucoup plus tôt, dès le XVIIIe siècle, et la baisse a également commencé nettement plus tôt. C'est le phénomène de la transition démographique qui est déjà largement réalisé. Le rythme de progression de la population mondiale a atteint son zénith dans les années 1950-1970, avec près de 2% par an, et n'a cessé de décroître depuis lors. Même si l'on ne peut être sûr de rien en cette matière, il est probable que ce processus va se poursuivre et que le taux de croissance démographique au niveau mondial va retrouver des niveaux quasi nuls dans la seconde moitié du XXIe siècle. La courbe en cloche est clair et net, voir graphique 2.2. Pour ce qui est de la croissance de la production par habitant, les choses sont plus complexes. Cette croissance proprement économique a mis plus de temps à décoller. Elle est restée quasi nulle au XVIIIe siècle, a atteint un niveau plus significatif au XIXe siècle et n'est véritablement devenue une réalité partagée qu'au XXe siècle. La croissance de la production mondiale par habitant a même dépassé 2% par an entre 1950 et 1990, grâce notamment au rattrapage de l'Europe, et de nouveau entre 1990 et 2012, grâce au rattrapage de l'Asie, et notamment de la Chine, où la croissance a dépassé 9% par an entre 1990 et 2012, d'après les statistiques officielles, un niveau jamais observé dans l'histoire. Il faut souligner que le taux de croissance de la production mondiale par habitant, estimé à 2,1% par an entre 1990 et 2012, tombe à 1,5% si l'on examine la croissance de production par habitant adulte. Cela découle mécaniquement du fait que la croissance démographique passe de 1,3% à 1,9% par an sur cette période, suivant que l'on considère la population totale ou la population adulte. On voit l'importance de la question démographique pour décomposer une même croissance globale du PIB mondial de 3,4% par an. Qu'en sera-t-il après 2012? Nous avons indiqué sur le graphique 2.4 représentant la production mondiale par habitant jusqu'à 2100 une prévision de croissance médiane. Cette prévision est relativement optimiste puisque nous avons supposé pour les pays les plus riches, Europe occidentale, Amérique du Nord, Japon, une croissance de 1,2% par an de 2012 à 2100, soit un niveau sensiblement plus élevé que celui prévu par nombre d'économistes, et pour les pays pauvres et émergents, une continuation sans heurts du processus de convergence, avec une croissance de 5% par an de 2012 à 2030 et de 4% de 2030 à 2050. Si cela devait se réaliser, alors le niveau de production par habitant aurait dès 2050 rattrapé un peu partout le niveau des pays les plus riches, aussi bien en Chine qu'en Europe de l'Est, en Amérique du Sud, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. À partir de cette date, la répartition de la production mondiale décrite dans le premier chapitre s'approcherait donc de celle de la population. Dans ce scénario médian optimiste, la croissance mondiale de la production par habitant dépasserait légèrement 2,5% par an entre 2012 et 2030, puis de nouveau entre 2030 et 2050, avant de tomber au-dessous de 1,5% après 2050 et de se diriger vers 1,2% dans le dernier tiers du siècle. Par comparaison à la courbe en cloche suivie par le taux de croissance démographique, voire graphique 2.2, cette seconde courbe en cloche aurait la double particularité d'atteindre son sommet beaucoup plus tard que la première, presque un siècle plus tard, au milieu du XXIe siècle et non du XXe siècle, et de décroître non pas vers une croissance nulle ou quasi nulle, mais vers une croissance un peu supérieure à 1% par an, soit un niveau nettement plus élevé que celui des sociétés traditionnelles, voire graphique 2.4. Si l'on additionne ces deux courbes, alors on obtient l'évolution du taux de croissance de la production mondiale totale, voire graphique 2.5. Jusqu'en 1950, ce dernier avait toujours été inférieur à 2% par an, avant de bondir à 4% entre 1950 et 1990, niveau exceptionnel qui est la conjonction de la plus forte croissance démographique de l'histoire et de la plus forte progression historique de la production par habitant. Le rythme d'accroissement de la production mondiale a déjà commencé à diminuer et est légèrement au-dessous de 3,5% entre 1990 et 2012, malgré la croissance extrêmement forte des pays émergents, et notamment de la Chine. Selon notre scénario médian, ce rythme devrait se maintenir entre 2012 et 2030, puis passer à 3% entre 2030 et 2050, avant de tomber à environ 1,5% pendant la seconde moitié du XXIe siècle. Nous avons déjà dit à quel point ces prévisions médianes sont hypothétiques. Le point essentiel est que, quels que soient les détails du calendrier et des taux de croissance, et ces détails sont évidemment très importants, la double courbe en cloche de la croissance mondiale est pour une large part déjà écrite. La prévision médiane de la croissance de la production mondiale évoquée précédemment est optimiste à double titre. D'une part, parce qu'elle suppose une croissance de la productivité maintenue à plus de 1% par an dans les pays riches, ce qui suppose des progrès technologiques considérables, notamment en matière d'énergie propre, et d'autre part, et peut-être surtout, parce qu'elle suppose une continuation sans heurts politiques ou militaires du processus de convergence des pays émergents vers les pays riches, jusqu'à son terme vers 2050, ce qui est très rapide. Il est aisé d'imaginer des scénarios moins optimistes, auquel cas la courbe en cloche de la croissance mondiale pourrait tomber plus vite et vers des niveaux plus bas que nos prévisions.